Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'être à l'écoute de Micro Rebelle. Donc nous sommes dans notre émission Micro Rebelle Hebdo Décryptage qui paraît chaque semaine sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Donc cette émission a été enregistrée quelques jours après le premier tour des élections présidentielles. Et aujourd'hui je suis avec Jacques et Pierre. Alors Jacques, bonjour, Pierre, bonjour.
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 Et donc on va traiter un petit peu, hein, puisque c'est la période qui veut ça, on va traiter un peu de... essayer de tirer quelques fils, quelques analyses de ce premier tour des élections présidentielles. Alors, pour ma part, peut-être pour introduire, hein, j'ai relevé quelques données chiffrées que je voulais faire partager à Jacques et à Pierre et à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors ces chiffres, ça concerne la représentativité, en quelque sorte, des différents candidats. Et notamment, j'ai retenu les deux candidats qui sont en lice pour le second tour, hein, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, l'un et l'autre ont été élus pour le deuxième tour, Macron avec 24% des voix et Le Pen avec 21%. Si on les ramène au nombre d'électeurs inscrits, Emmanuel Macron est passé au deuxième tour avec 18% de l'ensemble du corps électoral et Marine Le Pen avec 16% du corps électoral. Ça veut dire que les deux candidats retenus représentent à eux deux 34% du corps électoral. Donc ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est une donnée qui est tirée de celle-là, c'est que de l'un ou l'autre de ces candidats qui sera élu, c'est vrai que... apparemment, ce serait, on emploie le conditionnel, Emmanuel Macron qui serait élu au second tour. Mais s'il est élu au second tour, finalement, il représente 18% du corps électoral. Donc, mon premier sentiment, hein, c'est est-ce que, avec cette élection en 2017, le système présidentiel et ce mode de désignation d'un président qui a des super pouvoirs, il n'atteint pas finalement ses limites, en tout cas en matière de représentativité de démocratie. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'évoquer pour démarrer cette émission. Alors je vous renvoie la question à toi Jacques, à toi Pierre, y compris en vous laissant la possibilité de vous exposer l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier tour, Jacques ?
Oui, je vais... repartir des chiffres que tu as donnés et qui ne m'étonnent pas et que pour ma part je considère comme des chiffres que l'on voit régulièrement depuis de nombreuses élections. Et c'est-à-dire que ceux qui sont élus avec environ un quart, au mieux un tiers des voix, des gens qui se sont exprimés et des gens qui adhèrent vraiment à leur projet, hein, au projet qui, en tout cas qu'ils nous ont présenté. Petite parenthèse, parfois entre le projet qu'ils nous ont présenté et celui qu'ils mettent en œuvre, la distance est importante.
Mon ennemi, c'est la finance, par exemple.
Ben, par exemple, oui, voilà, on pourrait en citer, en faisant un petit effort de mémoire, beaucoup d'autres. Et malheureusement, et je pense que c'est aussi ce qui explique la situation dans laquelle on se trouve maintenant, situation qui n'a pas que des mauvais côtés, parce qu'elle va peut-être ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles initiatives, à quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Mais souvent, ces chiffres sont oubliés une fois que le résultat est obtenu, que l'on a fêté la victoire pour ceux qui ont gagné. Et ce qui amène les élus, puisque ceux qui ont eu à un moment donné, on va dire, soit une majorité réelle, soit en tout cas... de 50% plus 1 des exprimés au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour. Et sinon les autres, hein, ceux qui ont eu le maximum si on était dans une majorité relative, a oublié qu'ils n'ont été élus que par un petit potentiel de personnes. Et ce qui les amène à, je veux dire, gérer d'une façon qui est très très vite décriée, par les citoyens et qui amène les citoyens à être très très mécontents désormais.
Pierre ?
Oui, je voudrais pour ma part insister sur le taux d'abstention. C'est-à-dire que il y a eu une pression extraordinaire avant les élections pour pousser les gens à voter. Et ça, disons qu'au niveau des médias, ça, c'était le forcing qui était mené. Et ça, en fait, ça a marché. C'est-à-dire que concrètement, par rapport à ce qui était prévu, ce que disaient les sondages, mais là, les sondeurs sont toujours un peu à côté de la plaque, hein, on a abouti à quelque chose qui paraissait pas aussi catastrophique qu'on pouvait le penser au départ, ce que certains pouvaient le penser. Et c'est tout de même assez étonnant, et peut-être qu'il faut l'analyser d'une façon différente, c'est-à-dire penser que tout a été fait pour montrer qu'il y avait d'un côté le diable, c'est-à-dire le Front National, et qu'il fallait à tout prix faire en sorte que ce repoussoir n'existe pas et ne n'arrive pas à prendre le pouvoir. Ça permet tout de même de montrer que on n'est pas dans une démocratie véritablement très nette, c'est-à-dire que on est toujours dans des calculs pour pousser à la roue un certain nombre de gens, et surtout parce que il faut à tout prix, moi ce que j'appelle faire passer l'information des élections en premier. C'est-à-dire qu'on est, depuis le mois de septembre, on est gavé de ce type de raisonnement. Et pendant ce temps-là, on ne pose pas les problèmes qui sont véritables. Et donc c'est tout de même une grande difficulté parce que, en réalité, quand on voit que les médias s'occupent du terrorisme, s'occupent des élections et s'occupent du sport, du foot en particulier, on en est là. C'est-à-dire que on restreint un peu la réflexion sur notre société. J'y reviendrai tout à l'heure.
Bah, peut-être pour prolonger ce que tu dis, moi j'avais envie d'évoquer un autre aspect. Tu parles de l'abstention, mais je vais évoquer les votes blancs et les votes nuls. Alors, moi, j'ai pas de point de comparaison, j'ai pas fait de comparaison avec les élections précédentes. Mais enfin, ceci étant, pour ce premier tour des élections présidentielles, il y a 950 000 personnes qui ont voté blanc ou nul. Ça fait 2,5% des votants. Ça veut dire qu'il y a 950 000 personnes qui se sont déplacées pour mettre un bulletin blanc ou un bulletin nul ou un bulletin arraché. Enfin bon, pour un vote qui ne sera pas comptabilisé, finalement. C'est quand même assez... alors qu'il y a 11 candidats. C'est quand même, moi je trouve, assez significatif de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, finalement.
Oui, je ne sais pas. Il faudrait savoir, il faudrait les questionner pour savoir pourquoi ils ont choisi de participer à cette élection, alors qu'ils auraient pu justement s'en abstenir, et en y participant, de soit le faire d'une manière volontaire, on va prendre qui amène à ce que leur bulletin soit nul, soit d'une manière qui est le vote blanc, c'est-à-dire de se dire « cette élection, elle me paraît légitime, j'ai envie d'y participer, mais aucun des candidats n'est suffisamment proche de ce à quoi je pense, de ce à quoi je crois, de ce dont j'ai envie, pour pouvoir mettre son bulletin dans l'urne. Il faudrait vraiment les interroger. Par rapport à l'abstention... je vois ces deux hypothèses. Celle dont je viens de parler, de ne pas avoir de candidats suffisamment proches hein, de ses propres envies, de ses propres projets, soit ne pas avoir envie de participer à une démocratie par élection. Parce qu'on estime que c'est biaisé, il y a plein de dérives possibles, qu'une démocratie qui vivrait autrement, serait beaucoup plus vivante, respectueuse des citoyens. Et c'est une option que moi je peux tout à fait entendre.
Pierre ?
Oui, en fait, c'est vrai que moi je vais évidemment parler de l'abstention. C'est-à-dire que quand on parle d'abstention, ça veut dire qu'on se, on se retire. On se retire d'un, d'un débat. Le débat, effectivement, est faussé. C'est-à-dire que les véritables problèmes, d'une part, les véritables problèmes ne sont pas posés. D'autre part, si voter avait quelque chose qui permettait, de, au bout du compte, de, d'aboutir à des résultats, il y a déjà longtemps que ça se saurait. Et je pense que malheureusement, quand on voit la réalité, tout a été bien biaisé pour qu'on arrive à ce que on ait une élection et que les conséquences ne se voient pas du tout dans l'avenir. Alors, d'autre part, le problème qui est en jeu au niveau de la démocratie, c'est que quand on, dans ce système actuel, celui qui est élu a un mandat de 5 ans. Il se retrouve avec la possibilité de faire ce qu'il veut. On en a des exemples, évidemment, à tous les coins de rue. Je ne vais pas insister. Et donc, ce n'est pas ce qu'on appelle, ce que nous, on appelle un mandat impératif. C'est-à-dire qu'on a, on a délégué un pouvoir. Et en principe, la personne qui est élue devrait être au service de ceux qui l'ont élu. En réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de gens qui profitent de la situation pour continuer à aller dans le sens où ils pensent bien faire pour eux. Et pour eux, c'est-à-dire, ça veut dire aussi pour d'autres buts, évidemment, qui sont des buts au niveau financier, au niveau de... Alors, ça pose le problème tout de même de pourquoi les citoyens participeraient à ce type de mascarade. Pourquoi alors, ce qu'on peut constater, ça a été vérifié encore une fois cette fois-ci, c'est que les gens qui sont encore plus impliqués dans cette élection, c'est les gens qui sont de classe moyenne, voire supérieure. Par contre, les gens qui sont de niveau social assez peu élevé, ou se sont abstenus, ce qui est plutôt rare d'ailleurs, mais se sont abstenus, ou ont voté nul. Se sont abstenus, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement, ils se sentent pas dans ce système. Donc à un moment donné, ils se rendent compte que qu'on vote, qu'on ne vote pas, pour l'instant, on arrivera toujours à la même situation. C'est pour ça qu'il faudra peut-être inverser les problèmes et puis se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sera peut-être l'objet de la discussion d'après.
Oui, j'aurais un peu une différence avec toi, Pierre, parce que moi, ce que je constate, tout en constatant l'importance de l'abstention et des votes blancs et nuls, Lucien nous rappelait les chiffres, c'est que quand même, bon, allez, on va dire 70% des gens appelés à se présenter aux à se déplacer pour voter l'ont fait. Ça veut dire comme une majorité quand même assez importante. Ça veut dire qu'il y a encore suffisamment de gens, notamment sur cette élection présidentielle, pour avoir envie d'y participer, pour penser que ça va pouvoir être déterminant, pas complètement, chacun là il met ce qu'il veut dans cette élection. Certains pensent qu'il va y avoir l'homme ou la femme providentielle, d'autres se disent ça va créer un cadre dans lequel des choses pourront se faire. Voilà. On voit qu'il y a des différences, par exemple, avec les élections européennes, où là, je crois que le taux d'abstention est supérieur à 50%, si je ne me trompe pas. Les régionales, c'est parfois important aussi. Il y a une différence aussi, par exemple, avec les élections municipales, où les gens sont encore attachés au choix de leur maire et de l'équipe, pour pouvoir participer avec en grand nombre, je veux dire. Voilà. Donc peut-être un peu la nuance que j'apporterai par rapport à ce que tu disais.
Oui, mais justement, à partir du moment où on peut constater que les élections locales attirent plus de gens, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils auront certainement plus de possibilités d'intervenir, pas seulement sur le moment, mais après. C'est-à-dire que, bon, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, parce que dans des grandes villes, le moment passé après les élections, il y a une difficulté pour les citoyens de s'exprimer et puis de faire avancer un certain nombre d'idées. Donc on se retrouve. Alors, en réalité, c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que on a franchement une élection qui va donner des orientations. Et je reviens un petit peu sur le fait que on peut constater que dans tous les débats qui ont pu avoir lieu, dans un certain nombre de débats qui ont pu avoir lieu, on n'a pas posé véritablement les questions fondamentales. Et ça, je pense que là-dessus, on est tout de même. Alors, bien sûr, je veux dire que quand je parle de démocratie participative, je mets en cause ce que je fais, c'est-à-dire que on n'a pas suffisamment pris d'initiative pour montrer qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire que pour montrer qu'il y a une alternative. Et donc là, c'est peut-être une remise en cause par rapport à tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut entendre, parce que alors peut-être qu'on n'a pas suffisamment de voix pour pouvoir se faire entendre. Mais c'est aussi ça qui est posé comme question, c'est-à-dire véritablement qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative dans les faits et dans les actions.
Je suis d'accord avec toi hein, sur le fait que dans une élection comme celle-là, on devrait pouvoir dégager avant ce qui est fondamental. Parce que... moi, j'ai essayé. Je suis quelqu'un qui lit assez facilement et qui lit assez facilement des textes politiques, voilà, tout ce qui était les projets. J'ai essayé de m'y intéresser. J'ai lu tous les feuillets qui nous ont été envoyés. C'est quelque chose, je veux dire, c'est relativement indigeste, quoi. Et pour pouvoir se souvenir la D11, faire une analyse, c'est très très compliqué. Certains mettent, je veux dire, la petite histoire, le petit sujet là, parce qu'on sait que ça plaît, que ça va raccrocher quelques centaines de milliers de gens. D'autres, ça sera dans un autre domaine. On voit bien d'ailleurs que la presse. S'est trouvé dans l'obligation un petit peu de faire des tableaux récapitulatifs avec en une phrase mettant pour chaque candidat qu'est-ce qu'il compte faire en termes d'éducation, en termes d'armée, en termes de santé, etc. Bon, en fait, quand tout ce que les gens avaient écrit sur des dizaines de pages, qu'ils avaient déjà rassemblé dans 4 pages, il a fallu que les médias le mettent en tout petit dans un tableau pour que ça puisse être accessible à la grande majorité. Ça veut donc bien dire que pour cette élection-là, on n'a pas su tirer l'essentiel et demander aux gens de se prononcer sur les grands choix déterminants, le reste ayant justement à être traité au niveau local avec une participation. On pourra certainement en reparler, comment faire participer les gens, comment les inciter, comment leur redonner l'envie avec la participation la plus grande des citoyens qui le souhaitent.
Oui, moi j'avais relevé un certain nombre de choses qui m'ont un peu choqué, c'est-à-dire que en réalité on a parlé de façon très homéopathique des thèmes suivants, c'est-à-dire le chômage de masse, la pauvreté, la famine, les suicides, le changement climatique, le sacrifice des paysans et l'agro-industrie, l'eau impure, l'extraction des énergies fossiles, du danger du nucléaire, de l'air que l'on respire qui tue, de la médecine, parce que pour l'instant la médecine est plutôt mal partie, telle qu'on la voit actuellement. On peut parler également de la pollution des voitures et des avions. Et on peut parler aussi, un thème qui me paraît très important, c'est le productivisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me paraît, regrouper un certain nombre de thèmes, mais c'est un peu l'enjeu, et ça peut être lié évidemment avec toute la problématique du chômage, etc. Et puis de savoir qu'est-ce qu'on veut, quel type de société on veut. Et ça, là-dessus, je pense que, quel que soit le candidat, on n'a pas pu avancer, même si après certains pourront dire, je pense à certains camarades que je connais, l'ont dit, c'est-à-dire que tous ces thèmes-là sont abordés dans le programme de certains, paraît-il. C'est peut-être vrai, mais en réalité, il faut, comme le disait Jacques, il faut aller piocher dans les programmes. C'est-à-dire qu'il faut, faut lire beaucoup pour comparer, etc. Donc c'est un travail qui est tellement énorme que c'est pratiquement impossible à faire pour n'importe qui, pas seulement pour des gens qui ont des difficultés, mais également pour n'importe qui. Et ça veut dire que concrètement, on aborde les problèmes par le petit bout de la lorgnette, par les scandales, par les choses qui peuvent, faire tilt, qui peuvent faire un scoop, etc. Donc, on n'est plus dans la réflexion qui, on n'est pas dans la réflexion qui permet d'aller plus loin.
Ouais. Pour aller dans ce sens-là, on se rend compte à quel point on en est là par le fait que les militants qui sont choisis, on leur donne allez, 3 ou 4 éléments de langage qu'ils répètent à l'envi. Et puis voilà, on en reste à ça parce que eux-mêmes, alors qu'ils sont censés être s'intéresser, pour la plupart, ils sont en difficulté pour mémoriser tout ce qui est mis comme ça, un petit peu comme un paquet fourre-tout, parfois par certains candidats en particulier.
Très bien, ben, merci Jacques, merci Pierre. On va faire une petite pause musicale, on va s'interrompre un peu et reprendre tout de suite après. Donc on est toujours sur Micro Rebelle, un Micro Rebelle hebdo, diffusé sur microrebelle.fr et sur Radio PFM 99.9. Et on va écouter Shannon Campbell, c'est un peu de guitare, folk, jazz.
By a very, very talented man and musician, and it's called Redemption Songs by Bob Marley.
Bien, c'était un morceau de musique libre, hein, de Shannon Campbell. J'espère que vous avez apprécié. On est toujours sur microrebelle.fr et sur Radio BFM 99.9 hein, dans Microrebelle Hebdo. Et on décrypte avec Pierre et Jacques les quelques enseignements du premier tour de ces élections présidentielles. On est quelques jours après le 23 avril. Alors peut-être Jacques, Pierre, bon, on a évoqué un petit peu des aspects génériques de ce premier tour. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de situer ce que vous avez pensé des résultats. Enfin, comment est-ce que vous voulez décrypter, vous, à votre niveau, résultats d'ensemble, résultats particuliers. Pierre ?
Oui. Bon, moi, ce qui, au premier abord, effectivement, j'étais un peu globalement déçu du résultat dans la mesure où je trouvais que le taux d'abstention n'était pas extraordinaire. Ça signifie qu'il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour montrer que, comme je l'avais dit tout à l'heure, les élections ne servent pas à grand-chose. Donc ça, c'est un premier point qu'on pourra peut-être analyser pour essayer de montrer le pourquoi. Et donc ça, c'est une petite déception, mais je pense qu'effectivement, tant qu'on ne montrera pas d'une certaine façon, de façon très pédagogique, ce que l'on veut faire en s'abstenant, ça ne suffira pas de dire qu'un tel ou un tel, des gens très, très connus comme Élisée Reclus et tout ça, qui ont été les précurseurs dans ce domaine. Enfin, quand je dis très connus, c'est pas sûr, mais... Et en tout cas, ça fait partie des références historiques. Donc, tant qu'on n'aura pas véritablement sur le terrain quelque chose qui permettra d'avancer d'une autre façon et de montrer qu'on peut avancer d'une autre façon, on peut arriver à ce résultat qui sera peut-être... décevant au point de départ. Bon, alors pour l'analyse des résultats en lui-même, les résultats en eux-mêmes, je pense que malgré tout, bon, il fallait un peu s'y attendre. Personnellement, je ne suis pas trop étonné. J'aurais été assez surpris parce que quelques personnes m'avaient dit qu'éventuellement Jean-Luc Mélenchon risquait d'être au deuxième tour. Je demandais à voir. On a vu le résultat, c'est-à-dire que on a vu que c'est tout de même deux personnes qui sont paraît-il en dehors du système qui ont réussi à prendre les deux premières places. Alors c'est un peu rigolo de penser que Macron ne fait pas partie du système, il est carrément dedans. Il est dans le système, il n'est pas dans le système carrément politicien au départ, il est dans le système financier. Et ça veut dire que concrètement, c'est la courroie de transmission de ses maîtres. D'ailleurs, on sait très bien que le patronat, comme cheval de bataille, Emmanuel Macron. Donc sur ce point, il n'y a pas de surprise. C'est pas quelqu'un qui est contre le système, c'est quelqu'un qui est dans le système. Je vais donner un exemple aussi qui a été remarqué par une personne que j'apprécie, qui s'appelle Pascal Fabrice Nicolino, et qui a trouvé quelque chose de remarquable dans son fameuse défense à propos du nucléaire, puisque c'est un des éléments forts de la campagne de Macron. Macron qui a osé dire « Nous croyons au nucléaire, non pas parce que c'est un héritage du passé, mais parce qu'il est au cœur de notre politique industrielle, climatique et énergétique. Le nucléaire, c'est le rêve prométhéen. » Alors la réponse, le commentaire de très percutant, très pertinent de Fabrice Nicolino est de dire que si demain ou après-demain la moitié de la France est vitrifiée pour 10 000 ans, vous croyez qu'on pourra demander des comptes à ce salopard ? Et je pense que ça résume un petit peu la situation. C'est-à-dire que c'est une personne qui dit tout et son contraire. On peut le vérifier dans différents domaines. Alors, parlons de la deuxième personne qui est Marine Le Pen. Marine Le Pen, je ne vais certainement pas faire son éloge, évidemment. C'est-à-dire que c'est un néolibéralisme comme pour Macron. Donc on a affaire à deux néolibéraux qui vont s'affronter, même de la région des Hauts-de-France, puisqu'il paraît-il que c'est une autre gloire. Je ne vois pas en quoi c'est une autre gloire, mais quand on écoute les informations régionales, c'est un peu ça. Et donc Marine Le Pen se différencie d'Emmanuel Macron dans la mesure où elle est ce que j'appelle franchouillarde. C'est-à-dire qu'elle elle pose des problèmes d'une façon extrêmement vertueuse, c'est-à-dire virile, c'est-à-dire évidemment blanche, c'est-à-dire chrétien. Donc on a toutes les qualités si on est dans ce camp-là. Et puis on va se retrouver évidemment à mettre des murs et d'abord virer les gens qui ne sont pas d'une couleur acceptable, virer les gens qui n'ont pas les mêmes opinions. C'est ce qui peut se passer dans certains meetings au niveau de cette personne. Et puis on va évidemment s'occuper de ces problèmes, c'est-à-dire de soi d'abord, donc de la France. Et puis après, si on a réussi à résoudre ces différents problèmes, on mettra un mur tout autour de la France. Comme ça, on ne sera pas gêné par les migrants qui risquent d'arriver en quantité très importante à cause de tout ce qui a rapport avec le réchauffement climatique. Et bon, voilà les deux représentants. Après, je vais faire une exception, enfin pas une exception, mais je vais essayer d'analyser succinctement ce que je pense de Jean-Luc Mélenchon. Personnellement, sur un certain nombre de choses, son programme me paraît intéressant, mais je me méfie à la fois des promesses, et puis je me méfie peut-être aussi de Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi ? Parce que, au point de départ, il a un peu fait ce que décrit Denis Sifer. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une campagne très individuelle au départ. Il a d'ailleurs sa candidature est remarquable, c'est-à-dire qu'il s'est détaché de son parti. Il a dit un jour, après s'être rasé ou avant, je ne sais pas, il a dit « je me présente ». Donc ça, personnellement, c'est ce que j'appelle le péché originel pour moi. C'est-à-dire que c'est un peu une version messianique de cette élection qui, tout de même, enfin, qui pose problème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me chagrine et qui me choque aussi dans la façon de faire de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a du mal à accepter des contradicteurs. Qu'il soit virulent, je peux le comprendre. Qu'il admoneste des journalistes, jeunes journalistes, de la façon dont il l'a fait à un moment donné. Je trouve ça un peu scandaleux. Qu'il s'attaque à Jean-Michel Apathy, alors là, je serais tout à fait le premier à l'applaudir. Mais je trouve que là, il manque de psychologie, de pédagogie.
Tu n'es pas Jean-Michel Apathy ?
Et non. Et non, ben je ne voudrais pas l'aide d'ailleurs. Et ce qui me choque, c'est que par exemple, quand il a eu des problèmes avec France Inter à cause d'une transmission sur YouTube, il a eu des problèmes avec Politis, il a eu des problèmes avec Mediapart, il n'est pas allé au débat de ces différentes structures médiatiques. Attention, hein, qu'on se mette bien d'accord, ça ne veut pas dire que je soutiens ces différents médias. Ça veut dire que je suis très critique vis-à-vis des médias et de la façon dont ils ont analysé, dont ils ont fait le reportage de tout ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. Mais je veux dire que là, ça pose un problème. Un autre exemple, et je vais terminer là-dessus, c'est certainement pas le dernier des griefs que je pose. Quand une personne a osé attaquer, osé attaquer Jean-Luc Mélenchon à partir de dessins, il s'appelle Johann Sfar, c'est un auteur de BD, et cette personne a osé l'attaquer sur deux points, c'est-à-dire sur justement la personnalisation et sur le rapport avec la politique étrangère de Mélenchon, entre autres avec la Russie et puis la Syrie. Eh bien, il a reçu une quantité très importante de tweets Et ce qui fait qu'il avait l'intention de voter Mélenchon, je pense qu'il n'a pas dû le faire. C'est, le problème, c'est un peu ce que j'appelle le sectarisme d'un certain nombre de militants. Je ne dis pas tous. Il faut bien, mettre les points sur les i. Hein. Je prends un exemple au niveau des gens qui ont fait un travail énorme dans le sens de Mélenchon. C'est sur le secteur d'Arras et dans le secteur, peut-être pas dans le secteur de Lens, mais dans le secteur d'Arras, ça, c'est certain. Ils ont fait un travail énorme. Ils ont avancé un certain nombre de choses. Ils ont rencontré des personnes nouvelles, ce qui est remarquable. Ce qui fait qu'effectivement, comme disait Paul Masson, ça permet de voir un peu la politique d'une autre façon. Et ça, je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'ils font un travail. Ils ont fait un travail. Ils veulent le continuer dans cette optique, d'ouverture. On y reviendra dans la dernière partie, je pense. Mais là, je pense que c'est très bien. Par contre, j'ai rencontré aussi et j'ai lu des commentaires de personnes qui avaient l'air de dire que ceux qui s'étaient abstenus avaient le droit de ne pas parler entre les deux phases de ce championnat à deux temps. Et j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient tellement écœurées que, évidemment, les gens qui ont voté Hamon, qui ont voté Poutou, n'aient pas voté Mélenchon, ce qui fait que, évidemment, Mélenchon aurait été au deuxième tour. Et ils sont tellement écœurés qu'en fait, ils arrivent à la solution de dire je ne participerai plus à certaines actions, je n'appellerai plus certains camarades. Et je trouve ça tout de même regrettable. Je conçois qu'on ait pu voter Mélenchon. Je ne comprends pas qu'on soit sectaire à ce point-là. Et si on arrive mais c'est tout le problème d'un certain nombre de gens qui sont un peu ce que j'appelle partidaires. C'est-à-dire qu'ils sont un peu dans des partis et qui ont, comme toute structure, que ce soit le christianisme et tout ça, quand ils sont attaqués, ils se défendent et sans essayer de comprendre un petit peu le pourquoi des attaques ou le pourquoi des raisonnements qui peuvent faire avancer les choses.
Mm-hmm. Moi, je vais être un peu plus bref que Pierre, je pense, parce qu'il a bossé, il bosse beaucoup le sujet. Moi, je serais plus en réaction au premier niveau. Et puis, je vais commencer comme ça, rebondir tout de suite sur ce que tu as dit en dernier, comme ça, ça reste frais dans nos esprits. Je le déplore souvent, que beaucoup de personnes qui s'engagent sont quand même assez velléitaires. Alors, velléitaires au sens de espérer un résultat rapide, alors que tout ce que l'on engage, qui touche au fond, nécessite des années. Et donc, beaucoup sont déçus lorsqu'ils n'ont pas le résultat attendu au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Certains sont un peu plus résistants que d'autres dans cet engagement. Et forcément, lorsqu'ils n'ont pas ce résultat, ils cherchent des responsables. Et c'est dans le comportement humain. Je ne les accable pas, mais c'est une réflexion par rapport à, pour une explication éventuelle. C'est certainement multifactoriel. Voilà. Alors j'ai envie de dire aussi je vais commencer par les petits candidats, moi, puisqu'on fait un petit peu un tour comme ça, parce que les petits, hein, entre guillemets, j'ai trouvé que dans les commentaires sur les médias nationaux, ils n'existaient plus. Hein. Ils ont eu du mal à exister avant. Bon, heureusement, il y a eu ces grands débats, les deux débats, où tout le monde était obligé d'être là, quasiment, quoi. Bon, voilà, quand même, et où on a pu les entendre. Mais au moment des résultats, c'était terminé. Ils n'avaient plus le droit de venir sur les plateaux. En tout cas, moi, je ne les ai pas vus. Et on aurait pu leur demander ce qu'ils en pensaient quand même. Ils auraient pu réagir. Ils avaient participé comme d'autres. Et voilà. Donc moi, je vais les citer ici pour que Micro-Rebelle ne soit pas à l'image des micros nationaux, des micros...
C'est très bien, Jacques. Voilà. Très bien.
Bon. Une réflexion quand même sur les résultats. Alors, je veux simplement, par exemple, de Poutou et Nathalie Arthaud. On entend souvent quand même les Français se plaindre de ne pas avoir d'emploi, de ne pas avoir les salaires qu'ils méritent, de l'injustice, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui amassent et d'autres qui malheureusement, on leur réduit ce qu'ils ont déjà. Et les deux candidats qui se sont quand même le plus exprimés là-dessus, ce sont bien Nathalie Arthaud et je vais retrouver son prénom.
Philippe Poutou,
voilà. Hein. Et j'ai presque envie de dire, les pauvres, ils ont obtenu quoi, même pas 1% chacun. Là, voilà. Et je trouve que ça pose question quand même sur le désir des Français. Parce que aller donner sa voix, par exemple, à la représentante du Front National, à la candidate du Front National, en se disant que c'est elle qui va leur amener tout ce qu'ils désirent en matière de travail, en matière de salaire, etc., ça me paraît tout à fait incohérent.
Peut-être, j'ouvre une parenthèse, parce que tu évoques Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Moi, j'ai envie de préciser les concernant que ce sont les seuls candidats qui incarnait une classe sociale, celle des travailleurs, celle des exploités.
Oui, oui. Hein,
alors que tous les autres candidats incarnaient plus les citoyens, le peuple en général. Mm-hmm. Hein, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou se positionnaient sur un combat de classe, contre les exploiteurs, contre le patronat. Et c'était les seuls qui avaient cette position marquée strictement. Au-delà des citoyens, au-delà du peuple, il y a la classe des exploités. Je te laisse reprendre.
Oui, alors après, bon, si on prend là sur les quatre grands candidats, Fillon, moi je vais dire, c'est normal, voilà, il est sanctionné, et je m'en réjouis. Allez, je vais le dire comme ça, au-delà des qualités du bonhomme, il n'aurait même pas dû se présenter, quoi, pour moi.
Ce qui fait que la droite est en crise profonde, là, grande crise.
Ils vont régler leurs problèmes, ils vont travailler entre eux, il va y avoir la guerre des chefs, qui sera le chef des chefs. Je pense qu'au début, ils seront peut-être rassemblés le temps des législatives, mais après, ils vont régler leurs comptes et puis trouver leur nouveau capitaine de parti, justement. Voilà. Hamon, c'était attendu. Comment pouvait-on penser que M. Hamon puisse être le porteur des idées du Parti Socialiste alors qu'il avait été frondeur? Comment pouvait-on penser que lui qui est opposé à Notre-Dame-des-Landes allait pouvoir obtenir les voix de Jean-Marc Ayrault qui est pour Notre-Dame-des-Landes Comment pouvait-on penser qu'il puisse obtenir l'accompagnement de Valls? C'était évident hein, que Manuel Valls ne n'aurait pas suivi. Je cherchais un autre exemple. Ça ne pouvait se terminer malheureusement que comme ça. Je dis malheureusement, je pense que, comme beaucoup, il y avait peut-être un espace pour qu'il aille jusqu'au bout. Jean-Luc Mélenchon l'a souvent appelé avant les élections en disant les frondeurs, allez jusqu'au bout de votre démarche, quoi. Soyez des vrais frondeurs. Et puis là, il est clair que c'est plus la peine d'être simplement comme ça, dans la marge, à vouloir faire pression. Avec ce qu'on vous répond, où vous quittez, quitte à fonder, je veux dire, leur propre petit mouvement, qui serait peut-être devenu un mouvement assez fort, mais porteur d'autres valeurs que celles qui sont portées par la ligne Hollande, Macron, etc. Bon, il ne l'a pas fait, donc voilà. Ben, Jean-Luc Mélenchon, au niveau de son résultat, moi, je suis un peu déçu, parce que, et je suis, je veux dire, en phase avec les réserves que Pierre a exprimées concernant la personne. Pleine de qualités, mais aussi, je crois, avec pas mal de défauts personnels qui me font un petit peu peur. Bon, je vais le tempérer, ce que je dis, dans la mesure où je sais qu'il est entouré. Il n'est pas tout seul, il y aura des gens qui... Bon. Mais on sait aussi que... Combien sont nombreux les hommes politiques qui, ayant été élus à un poste, oublient là aussi, pensent que les autres, ce sont des collaborateurs, et puis qu'ils peuvent décider tout seuls, et que c'est eux qui ont raison, éventuellement entourés de quelques experts choisis, non élus, ça c'est encore autre chose. Donc déçu quand même, parce que je pense qu'il était porteur de l'espoir d'un vrai changement, et puis un changement qui était concrétisé par le mouvement sur le terrain. Je pense que la France insoumise, tous les rassemblements, tous les gens qui ont travaillé là autour de ça, qui se sont vraiment réunis, qui ont débattu, autrement que dans des grands meetings où en fin de compte il y a quelques personnes qui sont là pour chauffer la salle, faire un peu les marioles parfois. Là, je pense aux comédiens qui faisaient chauffer la salle de Marine Le Pen, là, c'est de manière absolument lamentable. C'est une honte pour moi de s'abaisser à faire ça. Pour ensuite, en fin de compte, écouter la parole du grand prêtre, hein, c'est la grand-messe, et tout le monde, est chargé d'applaudir tous les 10 mots et de brandir des petits drapeaux qu'on leur a bien distribués. Donc il y avait quand même, autour de ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon, un vrai travail de fond qui a été initié certainement par lui, mais aussi par les gens qui voulaient se reconnaître dans des idées qu'il avait déjà exprimées avant. Voilà. Moi, une remarque pour terminer sur des résultats particuliers. Et je vais m'arrêter, à ce qui est le bassin minier un peu plus large, avec encore une fois, une relative incompréhension, sauf à se dire que les gens ne sont pas encouragés à réfléchir régulièrement sur ce que sont les situations, sur les vraies causes de leur situation difficile, parce que les situations sont souvent difficiles, ok, mais se rendre compte que dans les villes du bassin minier, que dans les villages du bassin minier, on est à des scores de 40, 50, voire plus pourcent de gens qui ont voté Front National, c'est vraiment effarant.
Donc on peut peut-être rappeler à ce sujet-là, peut-être resituer, donc sur une trentaine de communes du bassin minier, toutes placent Le Pen en pole position, toutes. En deuxième position, c'est souvent Jean-Luc Mélenchon, la plupart du temps. Fillon est éliminé, Macron est troisième la plupart du temps. Peut-être qu'on peut faire un petit comparatif sur ce chiffre avec la dernière élection présidentielle. Il y avait 12 communes qui plaçaient Le Pen en tête en 2012. Là, cette fois-ci, c'est la quasi-totalité. Hein, avec parfois des scores qui sont extrêmement impressionnants, à plus de 50% dans deux communes du bassin minier. Aucune commune n'est épargnée, comme tu dis, le petit village, comme Lens ou Liévin. Pierre ?
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Jacques, parce que effectivement, je pense que on est quand on voit un certain nombre de situations, il y a un copain qui est sur Lens et tout ça, qui est effaré par la formation, le niveau de formation politique que peuvent avoir des élus. Et ça veut dire que concrètement, ce qui se faisait avant dans les partis, ne se fait plus maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de formation. Il n'y a plus de formation politique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce qui vient d'être dit, ce que vient de dire Jacques. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de montrer les tenants et aboutissants de telle ou telle situation. Et donc, on laisse les gens dans un désert. Et puis, donc là, on a un énorme problème. Et je rebondis sur ce qu'a aussi écrit je vais encore parler de Paul Masson, mais je pense qu'effectivement, il y a intérêt à essayer de réfléchir sur comment se former, comment essayer d'avancer, comment essayer de non seulement de se former, mais de former d'autres. C'est-à-dire d'avancer collectivement. Et ça c'est l'un des problèmes que l'on pourra soulever certainement tout à l'heure, et parce que c'est primordial, sinon on ne sortira pas de ce marasme dans lequel on vit actuellement, de ce cauchemar qui n'en finit pas.
Si tu es d'accord, on va pas en discuter tout à l'heure, on va en discuter maintenant, parce que notre émission avance, on est presque à la fin, donc l'idée c'était effectivement d'évoquer et maintenant, et la suite. Alors,
on y va.
Jacques?
Oui, je vais bien commencer. Je terminerai par une phrase qui permettra peut-être à Pierre de revenir justement sur ce point-là, puisqu'il a envie d'en parler. Alors moi, c'était ce qui, je veux dire, ce que j'avais en tête hein, en venant aujourd'hui, c'était oui, et le 7 mai, que faire, d'accord? Alors moi, le 7 mai, j'ai décidé de voter et j'ai décidé de voter Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que j'ai encore l'espoir, ou la naïveté, chacun l'appellera comme il veut, de penser que s'il est élu, ce sera le moindre mal, et je dis bien le moindre mal, hein, je ne dis pas un bien, pour permettre justement que les initiatives, là, que le travail de terrain, que l'éducation populaire puisse encore se faire dans les meilleures conditions. Regardez les meetings de Marine Le Pen, je veux dire les reportages qui étaient faits. Cette personne qui se présente là comme j'offre mon corps, là je suis la nouvelle Jeanne d'Arc. Le ton qu'elle prend dans ces meetings, qui est un ton complètement différent de celui qu'elle prend lorsqu'elle est en interview à la télévision, et qui est un ton dans les meetings qui est agressif. On parle souvent de FNAHINE, et vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Ce qui s'est dit aussi là, le soir des résultats, la présence de journalistes qui n'étaient pas les bienvenus, la manière dont ils étaient rembarrés, ce que certains ont dit, lui, de toute façon, s'il vient, je lui casse la gueule, c'est quand même pas démocratique. C'est pas le débat d'idées, c'est la violence. Bon, on connaît bien quand même les méthodes qui ont été celles qui entouraient les amis de Jean-Marie Le Pen, et je pense que beaucoup le disent. La devanture a peut-être un peu changé, le fond, il n'a pas changé tant que ça. Et moi, j'ai une vraie crainte que si le FN venait, enfin en tout cas Marine Le Pen venait à être élue, parce qu'après il y a quand même plein de choses derrière, malgré tout, elle est suffisamment de moyens en tant que présidente de la République pour venir mettre des bâtons énormes dans les roues de tous ceux qui veulent encore faire quelque chose dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine de la vie citoyenne. Et bon, on pourrait en citer comme ça. On sait ce qu'elle, par rapport selon ses idées sur l'immigration, sur le planning familial, sur etc. Donc voilà. Bon, voilà ce que j'ai décidé de faire moi. Tout en sachant que, je veux dire, dès le lendemain des élections, je continuerai à m'investir et à porter une autre parole que celle qui est portée par les amis d'Emmanuel Macron. Voilà. Bon. À un moment donné, il y a quelques années, il y a encore quelques mois, je vais dire, j'étais sur la position, plus jamais je ne referai ce que j'ai fait en 2002, c'est-à-dire donner ma voix à l'opposant, à Jean-Marie Le Pen à l'époque, en se disant, là aussi il faut se protéger. Et puis j'ai évolué, parce que je veux dire, la crainte, elle est presque plus forte maintenant. Je regrette presque d'avoir donné ma voix en 2002, parce que le danger était peut-être moindre, que maintenant, où l'implantation du Front National est énorme, la manière dont les gens pensent que ça va tout solutionner est très forte, et c'est vraiment une vraie crainte. Voilà.
Pierre.
Bon, je ne serai évidemment pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que je...
C'est le débat.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr d'avoir la vérité. Ça me paraît évident. C'est pour ça qu'il faut débattre. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il faut s'attendre aussi à des sacrées surprises avec Macron, puisqu'on est encore en période d'état d'urgence jusqu'au mois de juillet. Donc on verra ce que ça va donner après. On verra ce que ça va donner dans ses rapports avec les... à propos de la politique internationale, on n'en a pas parlé du tout, mais c'est tout de même un point qui me paraît crucial. Et ça veut dire qu'il faut s'attendre à tout, il faut s'attendre à ce que ceux qui ont envie de militer, ceux qui ont envie d'aller plus loin dans un sens différent, auront du mal à s'exprimer. J'en suis presque persuadé parce que là, il y aura un poids important, tel que je l'ai indiqué tout à l'heure, avec le fait qu'il y a une pression patronale qui permettra à Emmanuel Macron de lancer un certain nombre de pistes dans ce sens-là. Bon, je ne vais pas détailler trop parce que je pense que moi, ce qui me paraît le plus important, c'est...
Que je te pose une question. Tu le penses en termes même d'interdit direct ou indirect, tu comprends ?
Oui, je pense qu'effectivement, il y aura suffisamment de... Comment dire ? D'abord, il a été suffisamment clair sur un certain nombre de choses, que ce soit par rapport à la loi El Khomri. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de penser qu'on ne va pas avoir la partie facile, d'une part. Ça, je pense que Jacques en est tout à fait d'accord, ça me paraît évident. Mais surtout, on n'aura pas les moyens, au niveau éventuellement du militantisme, de s'exprimer facilement. Ce qui veut dire qu'il faudra imaginer d'autres façons de faire. C'est là notre problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est toujours dans les mêmes façons de faire, que ce soit des manifs, que ce soit des, etc. Il faudrait peut-être voir des choses un peu plus, je dirais pas plus violentes, mais plus percutantes en tout cas. Et moi, ce qui me paraît tout de même très important, parce qu'on n'aura pas le temps de développer cette partie, mais je pense qu'il est nécessaire d'abord de savoir permettre un certain nombre de regroupements à la fois au niveau politique et au niveau associatif, de façon à permettre à des gens qu'on n'a pas connus de comprendre un petit peu les situations, d'avancer dans la réflexion, dans la formation, pour pouvoir voir un petit peu quelle est l'étendue des problèmes. Parce que moi, je dirais que le problème principal, c'est comment faire pour éviter que l'humanité disparaisse. Point final. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout doit découler. Ça ne sera pas facile. C'est loin d'être facile dans la mesure où, effectivement, on aura en face de nous des multinationales, etc. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir. Et alors, réfléchir en agissant contre quelque chose et en agissant pour faire quelque chose. Et il faut que les deux pôles soient importants. C'est-à-dire que les deux existent. Et surtout le faire à la fois dans la clarté, dans la compréhension, dans l'acceptation d'un point de vue qui soit totalement différent éventuellement. C'est-à-dire que si on ne va pas dans ce sens-là, si on n'essaye pas de réfléchir au niveau de la démocratie pour avoir une autre forme qui ne soit pas de démocratie dans laquelle on est englué actuellement, mais qui soit une véritable démocratie avec mandat impératif, etc., et essayer d'avancer des idées et dans le respect des autres.
Oui, juste un mot comme ça pour que les gens, je pense que Pierre il me connaît, il m'a bien entendu, Lucien aussi, mais les gens qui nous écoutent peut-être pour qu'ils comprennent bien ma pensée, je ne suis pas certain qu'avec un Front National au pouvoir, une émission comme celle qu'on vient de faire maintenant pourrait encore se faire sans devoir passer par la clandestinité. Alors je vais peut-être un peu fort, mais j'ai cette crainte-là. Voilà. Et ça, j'ai pas envie qu'on en arrive à ça.
Très bien. Bah, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup d'idées à développer sur ce que faire, justement. Mais bon, on va s'arrêter là. L'heure a très vite tourné. Ça s'est passé très vite. On va se retrouver la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera après le deuxième tour. Donc on aura sans doute d'autres analyses, d'autres sentiments à développer. Eh bien, on vous dit donc à la semaine prochaine. Hein, on est sur microrebelle.fr, dans Microrebelle Hebdo, hein, sur PFM 99.9 également, dans notre émission Décryptage. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. À très bientôt.